Donc, nous sommes ici avec Charles Berry-Molin, chef du bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Tout d'abord, quel a été votre message aux pays donateurs que vous rencontrez présentement à Genève? C'est de leur dire, certes, merci pour la mobilisation pour l'Ukraine, mais il ne faut pas oublier le Sahel.
Je les ai remerciés pour ce qu'ils font déjà pour le Sahel. Grâce à eux, on a pu, l'année passée, assister plus ou moins 15 millions de personnes. Donc, je pense qu'ils font un effort. Et donc, les remercier, leur expliquer ce qu'on a fait avec leur argent, quelles étaient les priorités, c'est-à-dire... Avant tout, sauver des personnes. La crise au Sahel est une crise de protection, donc qui est centrée sur les besoins vitaux des gens, les besoins de base des gens. Et donc, avant tout, les remercier, les informer de ce qui a été fait avec leur argent, leur demander d'en faire toujours plus, bien évidemment. Ça, c'est toujours pour les humanitaires. On n'a jamais assez, d'autant plus que la crise au Sahel augmente dramatiquement. Il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de gens dans le besoin. Et aussi leur demander de faire un plaidoyer entre autres pour l'accès humanitaire et pour avoir accès à ces personnes que nous devons aider et qui ont besoin de notre assistance.
Est-ce difficile de plaider la cause du Sahel en pleine crise ukrainienne qui mobilise plus la communauté internationale?
Non, je crois que c'est pas facile, mais je pense que c'est au niveau de toute la planète, c'est toujours pas facile de plaider la cause de gens qui sont complètement, qui n'ont pas droit à la base, qui sont dans des conditions de risque de perdre leur vie, qui sont déplacés, qui sont réfugiés. Donc ce n'est jamais facile, ce n'est pas facile pour le Sahel. Le fait que nous soyons que la guerre en Ukraine, l'impact de la guerre en Ukraine, probablement les gens en Europe, les gens aux États-Unis se sentant peut-être un peu plus menacés dans leurs habitudes, étant un peu plus inquiets, la situation économique mondiale n'étant pas bonne, peut-être que les gens font un peu plus attention à eux et moins attention au Sahel qui n'est plus dans les premières pages, mais la situation est dramatique. Mais j'ai bon espoir parce que l'argent arrive toujours, peut-être pas assez. À nous de faire plus avec ce que nous avons. Mais je ne désespère pas, je crois que les gens sont toujours conscients qu'il faut aider le Sahel. Et c'est à nous d'en parler beaucoup plus aussi.
Vous dites que la situation est dramatique au Sahel, mais en quoi c'est dramatique?
La situation est dramatique parce que l'insécurité augmente. Des pays comme le Burkina Faso, qui était il y a quelques années en paix, font face à des incidents de sécurité, à une situation humanitaire dramatique avec plus d'un million, un million et demi de personnes déplacées en quelques années, en deux ans. Vous avez aussi des incidents qui commencent au nord des pays côtiers, le Bénin, le Togo, ont des attaques djihadistes. Donc je pense qu'il y a, la première chose, c'est le conflit, l'insécurité, la violence qui grandit, qui s'étend sur toute la région. Il y a aussi, n'oublions pas, les effets du changement climatique. On a de plus en plus d'inondations. Et nous avons aussi, je veux dire, une situation d'absence de l'État, donc d'absence de services sociaux qui s'agrandit parce qu'il y a moins d'argent. Et donc, c'est un effet cumulatif. Ce sont tous ces effets cumulatifs de la pauvreté qui était déjà endémique, des situations qui étaient déjà là, plus l'augmentation de la crise, plus le changement climatique, plus... Donc, à force de faire du plus, on en arrive à une situation où, par exemple, la moitié des gens du Sahel, la moitié de la population du Sahel, ne mange pas comme ils devraient manger. Vous avez de la malnutrition sévère. Et ça, c'est dramatique parce que même si on a de l'argent pour aider ces gens-là, la solution humanitaire, c'est une solution court terme. Et je ne vois pas, il faut qu'on trouve une solution de long terme. Donc il faut avant tout la paix, il faut que ces pays puissent reprendre possession de leur territoire, puissent remettre en place des services sociaux, non seulement des hôpitaux, mais aussi des écoles, et puis aussi que les gens aient droit à la protection physique, la protection de leur possibilité de sortir de chez eux, d'aller travailler sur le champ, ce qu'ils n'ont pas pour le moment. Et oui, donc c'est dramatique. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui au Sahel, c'est presque une génération qui est sacrifiée. Il y a plus de 15 ans que ce conflit existe, et ça s'empire. Donc oui, c'est dramatique.
Justement, quelles seront les conséquences de la guerre en Ukraine pour toutes ces populations juvéniles sur la sécurité alimentaire au Sahel?
La sécurité alimentaire au Sahel, pour le moment, au début du conflit, on a eu très très peur parce qu'on s'est dit beaucoup de pays vont avoir beaucoup de mal à survivre. Je ne dis pas que la situation, elle est bonne. Il y a beaucoup de malnutrition sévère, malnutrition au niveau des enfants. Il y a, je dis, 50% de la population du Sahel qui ne mange pas ce qu'ils devraient manger au niveau calories. Ça va s'aggraver, ça c'est sûr, mais je ne pense pas. Il y a quelques pays qui sont fort dépendants des exportations de blé. Mais pas tous les pays le sont. Il y a des pays, quand vous voyez le Mali et autres, ils dépendent nettement moins que des pays comme la Sierra Leone ou le Sénégal, par exemple, dépend fortement plus des fertilizers que du blé qui est importé. Ça a des conséquences, parce que si vous n'avez pas de fertilizer, vous ne pouvez pas cultiver comme vous cultivez. Donc je pense qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences financières, parce qu'évidemment, il y a peut-être une tendance à moins donner au Sahel, plus donner dans d'autres crises. Voilà, donc on essaye de limiter cet impact. Mais il n'y a pas, je pense, que réduire la crise ukrainienne a des effets négatifs sur le Sahel, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça.
Certains pays consomment beaucoup de riz, mais pour les pays qui dépendent du blé ukrainien ou de la Russie, comment au quotidien cela se traduit pour les habitants ?
Il y a beaucoup de pays où ils n'ont pas encore le prix du pain, par exemple, est fixé. Il n'y a pas que les prix, il y a des pays comme le Sénégal ou même en dehors de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, des pays comme on parle toujours de l'exemple de l'Égypte. Le problème, c'est que les États ne veulent pas augmenter le prix du pain. Donc l'État doit mettre la main à la poche. Le blé ou la farine va rester à un prix fixe, mais l'État va devoir payer la différence. Or, ces États n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a un problème. Il faut les aider. Parce que si on n'aide pas ces États à payer la note, ce sont les gens qui vont devoir mettre la main au portefeuille et ça, ils ne le pourront pas. Donc là, on risque des émeutes de la faim, on risque d'avoir des gens qui vont littéralement ne pas pouvoir se payer le pain dont ils ont besoin. Par contre, il y a aussi pas mal de pays où il y a de la capacité locale, où les gens utilisent les ressources locales pour produire leur pain local et autres. Donc il faut s'adapter, mais il faut aider ces pays à s'adapter.
À vous entendre, c'est comme si certains pays ouest-africains ont peut-être pris des mesures ou bien s'adaptent par rapport à cette crise ukrainienne, en prenant des mesures pour atténuer l'impact de la crise. Mais quel serait l'apport ajouté des Nations Unies pour aider ces pays ?
Tous ces pays sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Je sers l'Organisation des Nations Unies, donc je sers ces États. Donc je les aide à travers mes équipes. Nous les aidons à faire face. Nous sommes des partenaires et nous discutons de solutions avec eux. Nous les accompagnons. Ce sont des pays qui sont responsables et qui essayent de faire de leur mieux pour aider leur population. Et nous sommes à leur côté pour, par exemple, être certains que les programmes humanitaires qui ne peuvent pas être financés le sont, que nous faisons beaucoup de... Nous aidons les gens de la région à répondre à la crise. Et c'est une question de solidarité internationale. Les Nations Unies ont été créées pour cela, pour être solidaire de ces pays-là. Donc les Nations Unies, à travers la présence des différentes agences comme le PAM, l'UNICEF, supportent les programmes de ces États et les aident, non seulement financièrement, mais aussi en capacité de technique, avec des staffs techniques, à les aider à passer à travers de la crise ensemble. Les pays indépendamment ne se sortiront pas de cette crise dans cette région. Ce sont les pays en tant que région qui s'en sortiront. Mais c'est comme au niveau de la planète pour le climate change, pour le changement climatique. C'est évident que les pays doivent être ensemble pour prendre les bonnes mesures. Parce que les mesures sont... Les problèmes ne sont plus des problèmes de pays. Les problèmes sont des problèmes de région, voire de la planète entière. Donc voilà, il faut travailler ensemble.
Sur notre plan, on voit que la crise Sahel est en train de s'élargir vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Et ces pays côtiers du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, ont connu au cours de ces dernières années quelques problèmes sécuritaires, une détérioration de leurs conditions de sécurité. Quelles sont les conséquences sur le plan humanitaire que vous observez sur le terrain ?
Mais non, ce sont des pays qui ne sont pas... on n'en est pas au niveau du Niger, du Mali ou du Burkina Faso. Ce sont des pays qui ont des problèmes à leurs frontières. Donc ce sont des pays qui tiennent absolument à dire « Nous avons des problèmes dans le Nord, nous devons nous occuper de ces problèmes-là. » Mais avant toute chose, ce ne sont pas des grosses crises humanitaires. Dans ces pays, dans le Nord, vous avez la présence d'ONG, vous avez la présence d'agences des Nations Unies. Nous avons discuté avec les gouvernements pour renforcer cette présence-là et pour être certain qu'on puisse prendre en charge et s'occuper, aider le pays à stopper la crise dans cette zone-là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas des millions de réfugiés ou des millions de déplacés qu'il ne faut pas s'en occuper. Pour le moment, on a quelques dizaines de milliers de gens qui sont affectés, beaucoup de déplacements, quelques réfugiés du Burkina Faso. Mais dès à présent, on renforce la réponse, à travers les communautés locales qui accueillent ces gens-là, il n'y a pas de camp. On aide la communauté locale plus les déplacés dans l'assistance à recevoir la réponse humanitaire dont ils ont besoin. Et d'un autre côté, on travaille énormément avec ces gouvernements pour faire des plans de contingence et être sûr qu'ils sont préparés pour les crises, parce que ce sont des pays on doit être à côté d'eux pour leur apprendre à effectivement répondre à ces besoins.
Justement, 6 pays, le Burkina, le Cameroun, le Tchad, le Mali, le Niger et le Nigeria, ont élaboré des plans de réponse humanitaire pour 2022, nécessitant un total de plus de 4 milliards de dollars américains. Ce plan est-il bien financé de façon générale ?
Actuellement, alors qu'on est aux 2/3 de l'année, ces plans sont financés globalement entre tous ces pays à un peu plus de 30%. L'année passée, à cette époque, ils étaient probablement déjà financés à plus de 50%. Les plans humanitaires sont rarement financés à 100%. Donc c'est entre autres pour ça que je suis à Genève, pour rencontrer les États membres en leur demandant de faire un peu plus d'efforts pour être sûr qu'on garde le même niveau de financement. Ce qui est important de savoir, c'est que d'année en année, on demande de plus en plus d'argent et qu'en général, on reste au même niveau de financement. Cette année, vu les circonstances mondiales, on est plus bas que d'habitude. Ça nous effraie un petit peu, mais ce n'est pas pour ça que d'ici la fin de l'année, on ne restera pas au même niveau de financement. Je pense qu'il y a beaucoup d'États membres qui sont engagés à continuer à garder le même niveau de financement. Malheureusement, d'année en année, on a de plus en plus de besoins. Et c'est ça qui est un petit peu dramatique au niveau de la région. Et c'est pour ça qu'aussi, OCHA en appelle à trouver une solution pacifique, à trouver une solution politique à la crise, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans cet engrenage fou où vous avez de plus en plus de gens déplacés, de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide humanitaire. Parce qu'à un moment, ça ne sera plus possible.
Dernière question. Quel est aujourd'hui votre message à cette jeune fille de Tillaberi au Niger, ce jeune garçon, ce jeune ado de Gao au Mali? Vous le dites quoi par rapport à la situation globale que les Nations Unies sont toujours derrière eux?
Je leur dis de ne pas désespérer, et ce que je leur dis surtout, c'est que je vais me battre pour qu'ils puissent aller à l'école, que je vais me battre pour qu'on ouvre les écoles, parce qu'en général, on pense toujours à la nourriture, à l'eau, qui sont évidemment essentielles, mais je pense que tout faire pour qu'ils puissent aller à l'école, à travers l'école, ils peuvent avoir aussi une assistance en nourriture et autres, de ne pas désespérer, et qui sont l'avenir de ce pays-là. Et je dirais aussi que nous ferons tout, et que c'est le devoir et c'est le mandat des Nations Unies de dire qu'on va protéger ces gens, spécialement les jeunes filles, parce que la violence à travers les jeunes filles et les jeunes femmes est hallucinante. Et c'est notre devoir de rester à leur côté, quitte à prendre parfois certains risques, et de dire que les travailleurs humanitaires, surtout les travailleurs humanitaires nationaux, prennent énormément de risques pour les assister, pour rester à leur côté, mais c'est un devoir d'humanité qu'on va continuer à faire, et donc nous serons toujours avec eux.
Charles Bernie-Molin, merci beaucoup, merci infiniment.
Merci beaucoup pour cette occasion. Merci.